Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.
C'est 23.
Ça tient la route, le balado pour les vrais amateurs de voitures. Voici votre animateur, Benoît Charrette.
Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre rendez-vous de Ça tient la route en compagnie d'Alain Mécana. Salut Alain.
Bonjour Benoît.
Alors cette semaine, vous allez voir, on a un menu assez chargé et assez spécial aussi parce qu'on va parler à notre ami Daniel Breton. Daniel Breton qui s'occupe de Mobilité électrique Canada, c'en est le président directeur général. Et lui a fait un sondage auprès des partis politiques fédéraux qui concerne en fait l'électrification des transports et un peu quel genre de promesses électorales vous feriez, parce que bon, les élections, c'est le 20 septembre prochain.
Et ça va avoir un impact.
Et ça va avoir un impact, et c'est pas un sujet, bon, on le sait, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés pendant les campagnes électorales, on parle de la famille, on parle, bon, l'environnement, on commence à en parler pas mal, là. C'était un sujet qui était souvent laissé un peu de côté, mais là, ça prend de plus en plus d'importance, et Daniel est allé dans ce sens-là. Il va ouvrir l'émission avec nous dans quelques secondes. On va également avoir nos actualités, et on va avoir qu'est-ce que t'as pour nous en essai routier cette semaine, Alain.
Écoute, j'ai essayé un après l'autre la Subaru Legacy, la Legacy GT, et la Subaru Outback, d'ailleurs le nouveau modèle, l'édition
Wilderness,
merci beaucoup, mon accent est incroyable. On va pouvoir parler de
que
ça.
Que je viens juste d'avoir, alors je pourrais te suivre. Je suis allé la remener pas plus tard que cette semaine, donc j'ai eu ça la semaine dernière, moi aussi, et j'ai la Legacy en ce moment même.
Okay. Donc, là, on aurait dû s'appeler. On devrait faire quelque chose ensemble, ça marche.
C'est ça. Et moi, je vais vous parler, je vais revenir sur mon essai que j'ai eu cet été de la Ferrari Roma.
Ah oui?
Je vous ferai pas ça toutes les semaines, des voitures d'exception, mais... c'est un nouveau modèle chez Ferrari, ça court pas les rues des nouveaux modèles chez Ferrari, fait qu'on va parler de ça. J'ai eu ça au courant de l'été, et comme on n'avait pas d'émission, on n'en a pas parlé, mais on va revenir un petit peu sur ça. Alors, je vous avais dit qu'on avait Daniel Breton comme premier invité. Ben, il est déjà avec nous. Il est de Mobilité électrique Canada. Daniel, qui est ancien aussi ministre de l'Environnement du Parti québécois, qui est un collègue journaliste automobile aussi depuis des années. Salut, Daniel.
Salut, Benoît et Alain.
D'abord, merci d'être là, Daniel. Je sais que t'as une campagne électorale qui est presque aussi occupée que les députés et les ministres. tu cours beaucoup. Alors, dis-moi, Daniel, quelle était l'idée de consulter les partis politiques fédéraux sur l'électrification des transports?
En fait, l'idée était simple, c'est que comme Mobilité électrique Canada représente de nombreuses grandes et petites entreprises en électrification des transports à travers le pays, et comme personne parmi nous voulait avoir un débat, on voulait vraiment avoir des conversations plus en profondeur, il y a un an, on a décidé d'envoyer un questionnaire à tous les partis politiques et de leur demander de répondre dans des conversations, une personne à la fois, sur Zoom, qu'on a enregistré, donc qui sont sur notre site web, pour pouvoir aller au fond des choses.
Oui, c'est vrai que ça a été très long à réagir, parce que même la subvention de 5 000 là, c'est récent là, par rapport à ce que le Québec offre depuis déjà plusieurs années.
Là. Absolument. Écoute, pour te donner une idée, la première fois que j'ai parlé d'électrification des transports à un ministre fédéral, ça fait 15 ans.
Ouais.
Et puis, je sens vraiment un intérêt depuis à peu près un an.
OK.
Donc, les choses ont été longues à décoller au niveau fédéral, mais là, on sent vraiment que c'est le temps.
Bon, là, explique-nous un peu comment tu as procédé. D'abord, tu as rencontré des gens en entrevue, c'est des entrevues vidéo, d'ailleurs, qu'on peut voir là sur ton canal YouTube. Là. Les gens qui voudraient aller le voir, ces entrevues-là existent, on peut les visionner et les regarder. Là.
Exactement. Sur le canal de YouTube de Mobilité électrique Canada ou sur le site web de Mobilité électrique Canada, tout est là.
Okay.
C'est de 3/4 à 1 heure par représentant. Donc, évidemment, c'est long, mais la raison de ça, c'est très simple. C'est parce qu'on veut avoir le temps de parler des vraies choses.
Exactement. Donc, tu as rencontré des gens de chacun des partis, un représentant, et tu avais un questionnaire qui était le même pour tout le monde. Si tu avais à tracer une ligne générale, un parti libéral avec notre ami Steven versus un parti vert versus un parti conservateur, est-ce qu'il y a des grandes lignes qui se sont dégagées de ça?
Écoute, une des choses qui ressort, c'est que tous les partis politiques sont en faveur d'une loi zéro émission fédérale.
OK.
Ça, c'est une chose, écoute, qui il y a un an était même pas dans le radar.
C'est vrai.
Et nous, on a travaillé très fort pour faire en sorte que les partis politiques appuient une telle position. Évidemment, on a le Bloc québécois, le NPD, les libéraux qui disent on veut 100% de vente de véhicules zéro émission en 2035. On a le Parti vert qui parle de 2030. Et on a le Parti conservateur qui est plus modeste, qui dit nous autres, on veut 30% de vente de véhicules zéro émission en 2030. Donc, ils sont moins appuyés, ils sont moins agressifs dans leur vision des choses. Mais de voir qu'unanimité quant à la nécessité d'une loi de rémission fédérale, là, je veux dire, c'est quand même.
Ah, c'est un pas en avant. Oh, ouais, c'est un pas en avant, là. Faut être clair parce qu'on n'était même pas proche de là il y a un an, là.
Exactement. Quant au rabais, écoutez, le Parti libéral, le NPD, le Bloc québécois considèrent que le rabais actuel à 5 000 $ est intéressant. Mais le NPD, eux autres, ils disent, nous, pour une famille, ça peut être 15 000 $. Et là, moi, j'ai posé la question.
OK.
Qu'est-ce qu'une famille?
Oui, voilà. Bonne question.
Fait que eux, ils ont dit qu'ils étaient pour délimiter, voir les paramètres de ce qu'est une famille, considérant les nouvelles réalités auxquelles.
Oui.
Dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Mais bref, ils disent 15 000 $ par famille. Et ça peut être pour une voiture, ça peut être pour deux voitures, ça peut être pour deux voitures et un scooter. Fait que tout ça, dans le fond, ça semble être un peu flexible.
Okay. Des vélos, Alexandre?
Ouais, c'est ça, le vélo électrique.
Exactement. les vélos, scooters, etc. Tout ça peut être intégré dans les rabais au niveau du NPD. Pour ce qui est du Parti libéral, du Bloc québécois, du NPD, ils sont aussi ouverts à ouvrir, comment dirais-je, les rabais pour faire en sorte qu'il y ait plus de catégories de véhicules qui soient admissibles, nommément les pick-up électriques.
Ouais.
Qui, pour le moment, risque fort de ne pas être admissible au rabais fédéral.
Bon, en raison du prix, effectivement.
En raison du prix d'entrée. Pour ce qui est du Parti conservateur, eux autres, ils disent qu'ils veulent pas enlever le rabais tout de suite, mais qu'à terme, ils veulent enlever le rabais pour le remplacer par une espèce de compte d'épargne carbone. Ils disent, à chaque fois que vous achetez le compte d'épargne carbone, vous dites, quand tu achètes un produit qui émet du carbone.
Oui.
Tu retrouves avec un certain montant d'argent que tu peux prendre pour l'utiliser pour acheter des produits plus verts, que ce soit une voiture électrique ou autre chose.
OK. Donc, c'est un peu comme un compte en banque, mais en crédit carbone. Puis si tu es un bon citoyen vert, tu vas te ramasser un compte intéressant avec lequel tu vas pouvoir te payer des choses. Puis si tu n'es pas un bon citoyen vert, ton compte va rester bas.
Ou encore, si tu as déjà une voiture électrique et que tu ne pollues pas beaucoup, ton compte de crédit carbone ne sera pas très élevé.
Ah oui, effectivement.
Ce qui fait que donc, tu n'auras pas beaucoup d'argent pour acheter des produits verts. Donc, c'est pas clair pour moi et beaucoup d'autres mondes comment tout ça va fonctionner, honnêtement.
Autrement dit, les conservateurs sont pas contre, sont pas nécessairement pour, mais ils veulent pas trop le dire.
Ben, en fait, il y a quand même une chose qui a été dite, c'est que, contrairement au gouvernement Ford, qui, eux, genre 3 semaines après leur élection, ont totalement enlevé les rabais.
Oui, le 14 000 $ d'Ontario a disparu vite, là.
À zéro, en quelques semaines. Les autres, ils disent, nous, on ne veut pas faire les choses de cette manière-là. Dans le fond, ils disent, on voudrait faire une transition, c'est-à-dire qu'on prenne un certain temps pour graduellement remplacer le rabais par
compte de crédit carbone.
Compte d'épargne carbone, exactement.
Okay. Avez-vous demandé, Daniel, au parti à savoir s'ils allaient aider la production? Il me semble que c'est la disponibilité qui m'apparaît comme un gros problème en ce moment. Plein de gens veulent acheter électrique, mais ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent. Est-ce qu'il y a des questions qui ont été posées dans ce sens-là?
Ben oui, d'ailleurs, la raison d'être initiale d'une loi zéro émission, c'est de faire en sorte de forcer justement les constructeurs à en fournir suffisamment partout au Canada, parce que justement, et ça c'est un excellent commentaire, c'est qu'il y a plein de régions au Canada où, pour le moment, t'as beau avoir des rabais, t'as beau avoir des infrastructures de déployer, par exemple, dans les maritimes, il n'y a pas de véhicules chez les concessionnaires, d'où l'idée non seulement d'une loi zéro émission fédérale, mais potentiellement d'une espèce de représentativité régionale, parce qu'on pourrait se retrouver avec une loi zéro émission fédérale, ou encore là, on se retrouvait avec la vaste majorité des véhicules qui iraient au Québec, en Ontario, pas ici.
Oui, parce que c'est les endroits où on vend en ce moment à cause des rabais qui sont associés, là.
Ben oui et non, dans le sens qu'en Ontario, il n'y a pas de rabais.
Non, il n'y a pas de rabais. Il y a le 5 000 fédéral, effectivement.
C'est un marché tellement important.
Voilà.
Même s'il n'y a pas de rabais, il s'en vend quand même. Mais tu sais, dans les maritimes, en Saskatchewan, en Alberta, en Manitoba. C'est difficile d'en trouver chez les concessionnaires.
Ouais.
Et il y a même au Yukon qui a un rabais. Puis,
oui, c'est vrai.
Il y a une du Yukon avec qui j'ai parlé qui m'a dit, écoute, nous autres, on a installé des bornes. Ils ont même un rabais pour les motoneiges électriques, croyez-le ou non. Ce qui fait que eux ils disent, ben nous, on en veut, mais on n'en a pas. Les concessionnaires ne nous en offrent pas.
Okay.
Fait que ça, c'est sûr que c'est un enjeu. Puis il y a aussi une chose importante dont on a parlé, c'est est-ce que les partis politiques sont prêts à appuyer une stratégie d'électrification des transports gouvernementales pour déployer toute la chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire pour créer des jobs dans la fabrication de véhicules, de composantes, de batteries, du secteur minier jusqu'aux véhicules finis.
Ouais, autrement dit, c'est ça, toute la chaîne d'approvisionnement là, à partir de la mine aller jusqu'au produit fini. Là.
Oui. Et là, écoutez, pour vous donner un exemple, présentement, 99 % du lithium extrait au Canada est envoyé à l'extérieur. Fait que, évidemment, nous, on a parmi nos membres des fabricants de véhicules, mais on a aussi des compagnies minières, puis on a un syndicat comme Unifor. Les autres, ils disent, bon, on veut bien faire la transition, mais il faut en profiter pour créer des jobs au Canada.
Ben oui. Ben, ça me semble logique.
Ben oui, exactement. Hein? Donc, tous les partis politiques disent, oui, ça en prend, il faut laisser faire, le laisser aller. On va dire ça de même. C'est-à-dire que depuis de nombreuses années au niveau canadien, on dit, ben écoutez, le marché va prendre soin de ça. Mais quand on regarde les politiques agressives qu'on a en Chine, en Europe et maintenant aux États-Unis,
exact,
pour développer l'électrification des transports, si le Canada reste passif, il va être perdant, puis on va perdre beaucoup d'emplois en électrification, beaucoup d'emplois dans la fabrication de véhicules si on s'aligne pas de façon résolue en électrification des transports.
Daniel, si tu avais à résumer à travers, évidemment, toutes les conversations que tu as eues, est-ce qu'il y a des partis qui semblent être un peu au-dessus de la mêlée par rapport à d'autres dans tout ce que tu as eu de discussion et de questions avec ces gens-là?
Ben, écoute, je ne voudrais pas donner de notes, mais une chose est certaine, c'est que ce qui est proposé par le Parti libéral, le NPD et le Bloc québécois est intéressant.
OK.
Les conservateurs, eux, qui disent, ben, on veut laisser les infrastructures de recherche publique aux bons soins des provinces et des municipalités, considérant que les infrastructures de recherche sont un pan extrêmement important. Moi, je pense que c'est pas une bonne chose. Ça prend un programme fédéral, ça prend du financement fédéral pour aider au déploiement d'infrastructures de recherche. Sans ça, on n'y arrivera pas.
Ah, on sent le Parti conservateur un peu plus hésitant, là, c'est ça que tu dis.
Il est plus hésitant, mais cela dit, il y a quand même des avancées importantes qui ont été faites du côté du Parti conservateur, là, okay, soyons honnêtes. Puis ce qui est étonnant, c'est que le Parti vert, lorsqu'on leur a posé des questions, en fait, leur programme n'était pas encore prêt, puis il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de trous dans le programme du Parti vert pour le moment.
C'est drôle, hein? Le premier parti qui devrait être, en tout cas dans ma tête, en haut de la liste, c'est bien le Parti vert.
Absolument.
C'est le parti est là, en fin de compte, son droit même d'existence tient à ça, là.
Ouais. Mais une chose, en conclusion, moi, ce que je peux dire, là, c'est qu'il y a vraiment eu des avancées extrêmement importantes dans la vision des partis politiques fédéraux en matière d'électrification des transports. Évidemment, nous, chez Mobilité électrique Canada, on a travaillé très fort avec les différents partis pour les informer des technologies, comment ça fonctionne, des besoins, parce que, tu sais, il y a différents piliers qui sont incontournables, comme les rabais, en attendant que les véhicules soient à peu près à parité, les infrastructures. L'éducation, la formation, ça, c'est incontournable. Écoute, on a déjà des problèmes de pénurie de main-d'œuvre pendant la pandémie. Après la pandémie, là, une des choses qui va ralentir la transition vers les véhicules électriques, c'est de trouver du personnel qualifié.
Ah, ça va être un sérieux problème, parce que là, on a de la misère à trouver du personnel, point. On parle même pas de personnel qualifié, là, on parle de personnel non qualifié. Alors, imaginez ce que ça va être pour le personnel qualifié, là, ça va être un sérieux casse-tête, là.
Exactement. La réglementation, c'est un autre pilier important, d'où les lois zéro émission qu'on considère qui sont incontournables. Parce que pour le moment, sans loi zéro émission dans la majeure partie du Canada, ce que ça fait, c'est comme les constructeurs savent compter, on le sait tous, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient en priorité les véhicules électriques là où les exigences sont les plus contraignantes, nommément en Chine, en Californie, en Europe.
Ben oui. C'est pour ça qu'on a très peu de véhicules souvent ici, parce qu'on a peine à suffire à la demande domestique dans ces pays-là, et la production s'en va directement là où les lois sont les plus sévères. Donc, si on resserre ici, ben on risque d'avoir plus de disponibilité, là, c'est sûr.
Exactement. Fait que tout ça, c'est très important. Puis comme j'ai dit précédemment, une chaîne d'approvisionnement canadienne, on le voit ces temps-ci avec la crise des microprocesseurs. Ouais. Tu sais, on a voulu tout délocaliser pour sauver de l'argent. Là, on se rend compte que ça nous pète au visage, on va se le dire.
Ah oh oui, ça a été une bien mauvaise idée, en fin de compte.
ben c'est ça. Fait que là, il y a de plus en plus de gens qui disent qu'il faut que le Canada et les États-Unis travaillent à être beaucoup plus indépendants dans l'approvisionnement des pièces ou des batteries. De la Chine, du Japon et de la Corée, pour qu'on ait notre propre plan d'électrification des transports Canada-États-Unis, comme les Européens sont en train de faire.
Donc, il faut prendre en main nos propres choses, travailler sur notre propre chaîne d'approvisionnement, et c'est probablement la meilleure façon de s'en sortir.
Et on n'a pas le choix, en fait, parce que sans ça, on va passer en dessous du train.
Ah, exactement. Ben, un grand merci, Daniel Breton. C'était très éclairant, toutes ces belles histoires. Et je pense que ça va donner une bonne idée aux gens. Alors, quand tu auras d'autres bonnes idées comme ça, Daniel, tu nous rappelles. On va se faire un plaisir d'en parler.
Merci. Bonne journée, messieurs.
C'est Daniel Breton de Mobilité électrique Canada. Oui. Alors, nous, on passe à la pause et après, on revient avec nos actualités.
C'est 23.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct. L'assurance simplifiée.
Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette.
Alors, deuxième bloc, on va partir avec nos actus qu'on fait généralement dans la première partie, mais notre ami Daniel Breton est un petit peu pressé par le temps. Lui aussi couvre beaucoup la politique et tout ce qui s'en vient dans l'élection fédérale. Ouais. Il est un petit peu dans la sauce par les temps qui courent. Alors, actualité, tiens, je vais lancer le bal. Vous le savez probablement, le 22 septembre prochain, c'est la journée mondiale sans voiture. Et Volvo Canada voulait souligner l'événement d'une façon assez spéciale. C'est sûr que comme manufacturier automobile, tu peux pas encourager les gens à prendre leur voiture la journée sans voiture. Tu te dis, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ils ont eu une idée. Ils ont consulté une entreprise de chaussures canadienne qui s'appelle Casca. Alain, t'as même été voir, c'est en Colombie-Britannique.
Exact, ils sont basés à Vancouver.
Ils sont basés à Vancouver. Et ils ont travaillé ensemble pour créer quoi? Une espadrille inspirée par le Volvo XC40 Recharge. La compagnie Casca est une compagnie qui travaille beaucoup avec des matériaux renouvelables, qui travaille avec des matériaux recyclables. Et Volvo a beaucoup aimé l'idée parce que, bon, c'est quoi le but d'un véhicule électrique? Ben, c'est de travailler avec les ressources, on utilise beaucoup de matériaux recyclables dans la fabrication du véhicule. Donc, on a approché la compagnie Casca et on a mis sur pied une espadrille qui va être en vente au prix de 198 $ canadiens à partir du 22 septembre, donc de la journée sans voiture.
Ben oui.
Exactement. Et pour vous donner une idée un peu de la composition de l'espadrille, il y a par exemple la semelle qui est fabriquée avec 10% de matériaux qui proviennent de pneus de voiture recyclés. C'est la première fois que la compagnie Casca utilise dans une chaussure des matériaux de recyclage provenant de pneus. On a le dessus du soulier ou de l'espadrille.
L'empeigne,
voilà, qui est fait avec 7 bouteilles en plastique recyclé qui sont utilisées dans la fabrication, donc des fils de tricot. Donc, on fait le fil, voilà, et on tricote. On fait d'ailleurs, moi, j'ai des chandails de vélo qui sont faits à partir aussi de bouteilles recyclées.
Ouais.
Ça a l'avantage que ça ne devient jamais trempe, ça ne transpire pas. Sauf qu'il faut les laver de temps en temps parce que ça pue pareil, mesdames et messieurs.
Ça, c'est une autre question.
Il y a même, bon, évidemment, on a mis le drapeau suédois qui est représenté sur l'une des étiquettes du soulier.
Pour souligner,
voilà. Tandis que le jaune classique de Casca, parce qu'à ce qu'on reconnaît, on a toujours du jaune dans les souliers Casca quelque part. C'est l'autre côté soulé de l'espadrille. Et on a tenté de mettre certaines influences de Volvo, bon, évidemment, là, allez pas croire que l'espadrille a l'air d'un Volvo XC40, là, c'est pas à ce point-là. Mais on a l'influence des phares dans la forme de marteau de Thor qui se reflète dans les lignes et les panneaux de la chaussure.
Un marteau de Thor.
Le marteau, c'est la forme, tu sais, le fameux marteau de Thor,
oui, oui,
Thor
oui.
qui est le dieu
ben
suédois,
oui.
là, bon, voilà. Donc, on ajoute un peu de style, c'est axé sur un, disons, on veut donner un peu de performance à l'espadrille, donc c'est un produit qui est fort intéressant et on a voulu de cette façon-là du côté de Volvo Canada souligner la journée sans voiture.
Ben moi je vais dire, si vous magasinez, parce que ça s'inscrit dans une tendance, c'était les Allbirds qui est une marque de chaussures américaine,
oui.
les Vessi qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, sont des fabricants de chaussures comme ça qui utilisent des matériaux renouvelables. Casca, c'est l'équivalent canadien et tout ça. Donc, c'est déjà penser à cette marque-là si vous magasinez des chaussures et que vous voulez qu'elles soient un peu moins. Donc, qu'elles utilisent moins de ressources non renouvelables.
Voilà. En fait, c'est. Et ce que le représentant de Volvo, Lucas Diaz, me disait, c'est que Casca fabrique des chaussures, que ce soit espadrilles ou autres, pour le long terme. C'est-à-dire que c'est des chaussures qui sont bien construites, qui sont solides. C'est pas du acheter-jeter au bout de quelques années. Et c'est d'abord cette idée-là qu'on avait aimée du côté de Volvo et le fait, effectivement, qu'on utilise des matériaux recyclables. Donc, c'est ce qui a fait pencher la balance pour cette compagnie canadienne-là.
Ouais.
Cela dit, il va y avoir aussi une campagne aux États-Unis, mais on voulait souligner du côté de Volvo Canada que c'était l'idée
ouais.
de Volvo Canada au départ.
Ben, c'est bon pour Casca, en tout cas, on va dire ça comme ça.
Oui. Mm-hmm. Absolument. Toi, t'es de ton côté?
Oui, ben, tu sais, je fais un petit peu le prolongement de ce qu'on disait tantôt avec Daniel Breton. Les États-Unis, là, ils songent en ce moment une aide à l'achat de véhicules électriques qui pourrait monter à 12 500 $
oui.
américains pour les véhicules fabriqués aux États-Unis par des marques américaines. Tu sais, on disait justement, là, il y a une espèce de volonté de créer des industries locales basées sur la demande parce que tout le
donc,
monde veut acheter.
Donc, on favorise indirectement l'achat local
exactement.
Avec cette politique-là.
Aux États-Unis, bon, le président américain Joe Biden a récemment dit qu'il voulait que la moitié des ventes de véhicules neufs en 2030 soient faites de véhicules électriques. Et il a aussi dit, dans probablement la même phrase dans sa conférence il y a quelques semaines, qu'il voulait que l'industrie automobile américaine, donc locale, en profite. Il dit ça aux côtés des représentants du syndicat américain des travailleurs unis de l'automobile.
Ouais. United Auto Workers.
Traduction libre, exactement. Donc, résultat, ben évidemment, ça ferait monter cette aide à l'achat qui est actuellement de 7500 $ américains, l'aide fédérale aux États-Unis.
Oui, ça, c'est l'aide du gouvernement de Washington.
Exactement,
exact.
Gouvernement fédéral. Donc, et là, on ferait augmenter, on bonifierait dans le fond de 5 000 $ à 12 500 $ américains, ce qui est l'équivalent de pas loin de 16 000 $ canadiens en passant. Donc, c'est un gros montant d'argent.
C'est un très bon montant. Ouais.
Pour les véhicules vendus par des marques, je veux dire américaines avec des guillemets, là, mais ça inclurait, parce que là, on ferait sauter aussi une limite, parce qu'il y a une limite en ce moment du nombre de véhicules vendus par marque pour recevoir l'aide, qui était de
exact.
200 000 exemplaires. On ferait aussi sauter ça. Donc, Chevrolet ferait partie de l'aide, Tesla aussi.
Est-ce que ça inclut des marques comme Toyota qui fabriquent le véhicule aux États-Unis?
Ben voilà,
si on
non,
parle
exactement.
Uniquement, OK, donc on parle uniquement d'un Ford, d'un GM qui a une propriété américaine.
On parle de fabricants qui sont dont les travailleurs sont associés au syndicat UAW.
Ah oui, OK. Là, fait que c'est pointu.
Oui, fait que ça serait, okay. On se comprend, ce serait du GM, du Ford, du Chrysler.
Ouais.
Évidemment, Toyota et Honda qui ont des usines aux États-Unis, ben, il y en a ici au Canada aussi, et qui fabriquent de façon quand même assez local des produits aux États-Unis. Eux ont déjà commencé à protester en disant « mais c'est injuste, on va avoir moins d'aide, donc on n'aura pas accès à cette demande, dans le fond. » Là, il y a un truc que, bon, ça joue au niveau politique. De toute façon, il faut aussi que ça passe à travers le Sénat américain, puis c'est pas gagné d'avance, parce que c'est moitié-moitié entre démocrates et républicains là-dessus, puis tout le monde se chicane tout le temps. Il y a une autre partie de cette mesure-là qui est assez intéressante. Washington veut proposer un crédit de 2500 $ américains, encore une fois, à l'achat d'un véhicule électrique usagé, sans égard à la marque ou quoi que ce soit.
Okay.
Une mesure qui devrait, croisons-nous les doigts, inspirer le gouvernement canadien, le gouvernement fédéral ou peut-être le gouvernement d'une province, parce que l'aide à l'achat de véhicules usagés en ce moment est soit très compliquée, soit inexistante au Canada.
Oui. Il y en a pour des véhicules électriques d'occasion là, qui
ouais,
ont
ben exact, c'est ça. Véhicules électriques usagés, c'est exactement ça la mesure. Mais dans le cas du Québec, il y a une aide, il faut que le véhicule vienne de l'extérieur de la province.
Exact. Ne peut pas avoir été. Parce qu'on considère qu'il y a déjà eu une première subvention quand il était acheté neuf au Québec. Donc, il faut qu'il vienne d'ailleurs.
C'est ça. À un moment donné, il faut voir où on trace la ligne parce qu'il faut comme accélérer l'électrification parce qu'on n'atteindra jamais les cibles avec l'aide actuelle. Donc,
c'est clair.
Longue histoire courte, ce serait le fun de voir si ça va inspirer les... Puis là, avec Daniel, ce que Daniel a dit, peut-être que oui, peut-être que non, mais le futur prochain gouvernement canadien, fut-il minoritaire, majoritaire ou peu importe, pourrait s'inspirer de cette mesure-là, qui va peut-être, en tout cas, on verra, là, mais qui pourrait être adaptée aux États-Unis.
On se dirige vers une minorité, en tout cas, si on en croit les plus récents sondages. Mm-hmm. Tiens, je te demandais, Alain, de me nommer le véhicule qui se vend le plus rapidement aux États-Unis en ce moment.
Le véhicule, ben, le plus rapidement, ça dépend ce que tu veux dire, ça doit être
sans égard au prix, là.
Ben, j'aurais dit un pick-up, c'est sûr, mais parce que c'est assez simple. F-150, comme un pari certain, il me semble.
Ben non, c'est pas ça. Puis moi, j'ai été surpris quand j'ai regardé ça. C'est le nouveau Santa Cruz.
Ah, ben, qui est un pick-up. Ah, ben, j'ai à moitié gagné.
T'as à moitié gagné. En fait, c'est la firme de sondage IC Cars, ICCars.com qui a analysé plus de 900 000 voitures neuves et d'occasion aux États-Unis le mois dernier, donc au mois d'août. Et les données montrent que les voitures neuves ont mis en moyenne 26 jours pour se vendre.
Okay.
C'est une amélioration par rapport aux 35 jours qu'il a fallu pour juillet, donc le mois d'avant. Là, évidemment, il y a une pénurie de microprocesseurs qui...
Ça, c'est la période entre le moment où c'est fabriqué et où ça se trouve être vendu, c'est ça?
Non, où ça arrive chez le concessionnaire et c'est vendu. Okay. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on a eu de ce côté-là. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est de voir qu'est-ce qui a été le plus vendu. On parlait Santa Cruz, c'est 8 jours en moyenne que ça prend pour vendre Santa Cruz quand c'est le concessionnaire. Deuxième, Chevrolet Corvette, 8.3 jours, deuxième. Mercedes-Benz GLS, ça j'étais un peu surpris parce que c'est quand même un véhicule. C'est le gros, 8.7 jours. Subaru Crosstrek, 9 jours. RAV4 et Sienna Execo à 9.5 jours. Forester, 9.7 jours. Tucson Hybride, 9.8 jours. Et le 4Runner aussi, 9.8 jours. Et en dixième place, 9.9 jours pour le Lexus RX 450H. Donc ça, c'est ce qui se vend le plus rapidement. T'as probablement raison que il n'y a pas de pick-up nulle part là-dedans, mais probablement qu'il y en a tellement pas chez les concessionnaires peu que ça vient fausser les données. Alors,
c'est un bel honneur pour Yannick.
C'est un bel honneur, surtout que c'est un nouveau modèle. Mm-hmm. Alors, je pense que c'est un signe encourageant. Je te retourne le micro, mon cher.
Ben, écoute, parlant de changement aux États-Unis, apparemment aux États-Unis aujourd'hui, General Motors, on le sait, aime beaucoup la marque Cadillac. Bon, évidemment, veut en faire la marque phare de son virage électrique, mais ça ne fait pas l'affaire de tous les concessionnaires.
Non, j'ai lu ça moi aussi.
Ils ont demandé évidemment aux concessionnaires, parce que ce qui arrive, c'est quand tu veux vendre des voitures électriques, évidemment, ça te prend une formation pour le service, ça te prend un inventaire de pièces pour l'entretien, pour les réparations, peu importe.
Exact.
Et longue histoire courte, quand GM a annoncé aux concessionnaires Cadillac aux États-Unis qu'il allait électrifier la marque, il a dit aussi vous allez devoir probablement débourser à peu près 200 000 $ américains pour formation, entretien, tout le reste. Et un concessionnaire sur 6, en fait c'est 17 %, donc c'est à peu près un sur 6 a dit hors de question qu'on fasse ça. Alors ils vont voir à peu près, pas loin de 17 à 18 % de leurs concessionnaires soit être fermés ou être rachetés par d'autres concessionnaires parce qu'ils refusent d'électrifier leurs opérations. La raison essentiellement, parce qu'on peut imaginer qu'il y a plein de raisons derrière ça, mais est essentiellement financière. Les propriétaires des commerces craignent que leurs revenus vont baisser avec l'électrique, puisque l'entretien est beaucoup, beaucoup moins fréquent et les bris mécaniques sont aussi pas mal moins nombreux, donc moins de revenus du côté du service.
Ouais, puis t'as des gens un peu de la vieille école dans ça qui croient plus ou moins à l'électrification des transports, puis qui ne veulent pas se donner le trouble. Mm-hmm. Moi, je pense que ça va être l'occasion d'une part de faire un ménage.
Ben voilà, il y a du bon pour GM, donc ça c'est officiel.
Il y a du bon pour GM qui va se dire bon ben nos concessionnaires qui ne veulent pas embarquer. Et soyez sans crainte, ceux qui croient vont probablement racheter les concessions qui vont fermer.
Exact.
Tu sais, les gens qui sont dans la région de New York, la Californie, de toute la région de San Jose, Silicon Valley, là, faites-vous-en pas un modèle électrique, peu importe le prix qu'ils vont être, ça va tout se vendre, ça. Alors, il va y avoir du monde pour rattraper ça au vol. J'ai l'impression que c'est peut-être la bonne excuse pour rajeunir un peu l'image, rajeunir un peu les produits et la marque.
Oui, mais c'est une stratégie. En tout cas, si c'était ça l'objectif de GM, c'est accusé, parce que c'est pas directement comme ça que ça a été présenté, mais
non.
Effectivement, l'évolution de Cadillac va être.
On n'est peut-être pas déçu du résultat du côté de chez Cadillac.
On rajeunit sa clientèle.
Absolument, absolument. Une dernière avant d'aller à la pause. Rivian a produit son premier véhicule cette semaine. Donc
la fameuse marque de gros VUS,
la fameuse marque Rivian. Moi, écoute, je me rappelle, j'étais à Los Angeles en 2018 et j'avais rencontré le propriétaire. Mm-hmm. C'était leur première sortie publique. Rivian était une jeune pousse qui avait des belles idées, des beaux projets.
Ouais, c'est encore des projets, ils sont encore très beaux.
Sont encore très beaux, mais on a fait beaucoup de chemin en 3 ans. On s'est associé à des Microsoft, à des Ford, à des grandes compagnies qui ont déboursé des centaines de millions de dollars. Donc, je pense qu'on a bien tracé la voie du côté de chez Rivian.
Puis on n'est pas loin de l'échéancier. On parlait de fin 2021. Donc,
voilà. Alors, on parle de septembre pour les États-Unis et de novembre pour le Canada, pour les premiers modèles. En fait, les premiers modèles vont être des modèles R1T, donc le pick-up, la camionnette. Et il va avoir une seule version. C'est les éditions spéciales de lancement. Tout ce qu'on a mis, c'est le prix américain. 73 000 $ américains. 75 500 pour la R1S, qui est le VUS, qui va arriver quelques mois plus tard. Et on va avoir seulement le modèle qui va venir avec l'autonomie qui tourne autour de 480 km. C'est la batterie de 135 kWh qui va être en place. Mais on attend une plus grosse batterie qui va donner jusqu'à 640 km d'autonomie. Évidemment, là, le prix va être à 100 000, on monte. Mm-hmm. Mais on va avoir à terme un modèle un peu plus bas. Le modèle qu'on lance là est un modèle un peu plus haut en termes d'autonomie. Évidemment, c'est une planche à roulettes, donc la base est la même.
Ouais.
Mais c'est un modèle dont on a beaucoup parlé dans les 2 dernières années. Donc là, c'est vrai, le premier modèle est sorti de l'usine de Normal en Illinois. En fait, c'est l'ancienne usine Mitsubishi Rivian a racheté.
C'est vrai.
Et on fabrique tous les produits-là. Évidemment, comme la planche à roulettes est commune aux 2 modèles, il y a une chaîne de montage, on ne se casse pas les pieds là, parce qu'on change en fait l'habillage, c'est ça, c'est la robe qui est différente. Donc les gens qui attendaient peut-être après Rivian, ben bonne nouvelle, on a commencé lentement mais sûrement... La production est partie.
Oui, parce que ça ne va pas être moitié-moitié. Ça aurait pu être racheté par Ford carrément puis devenir des produits Ford aussi. Il y avait
toutes
les options étaient sur la table.
Il y avait beaucoup d'options. En fait, même quand Ford a investi, plusieurs ont cru, et j'ai fait partie de ces gens-là, dire « Ah, ben là, Ford va prendre la planche à roulettes de Rivian, on va mettre un châssis de Ford et l'affaire est ketchup. » Ça a été plus compliqué que ça. Ford a décidé d'aller dans sa propre technologie, mais on a probablement emprunté des choses à Rivian dans tout ça pour accélérer le processus. Alors nous, on va à une deuxième pause et on va revenir avec nos essais routiers de la semaine.
Vous voulez plus de balado? Abonnez-vous à votre balado préféré sur Apple, Spotify ou Google.
C'est 23.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.
Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette.
Avant de passer à nos essais routiers, il y a une autre petite nouveauté qu'on va commencer cette semaine à l'émission, c'est notre chronique Écolo Auto. Écolo Auto est un site, écoloauto.com est un site sur les véhicules écologiques qui est ici, un site du Québec. Et je trouvais ça intéressant, il y a beaucoup de choses qu'on trouve le fun sur le site et on en parle souvent d'électromobilité, d'électrification des transports à l'émission. Et on a fait la semaine dernière le tour d'une question intéressante parce que les gens s'interrogent beaucoup sur l'autonomie des véhicules électriques qui arrivent sur le marché. Puis on a fait en fait un top 10 des véhicules qui vous donnent la meilleure autonomie sur le marché que vous pouvez acheter là en ce moment. Bon, évidemment, Tesla est en haut du palmarès. Tesla a toujours été reconnu pour son autonomie, que ce soit les modèles S, X, 3, Y ou toute la gang là sont toutes là. Le Mach-E de Ford arrive en 5e place avec 491 km, ce qui est fort intéressant. Puis il y a plusieurs modèles d'avenir, des modèles à venir, dis-je bien, dans le top 10 qui montrent tranquillement l'autonomie des véhicules s'améliore. On le voit, la norme était autour de 300 il y a quelques années. On est arrivé à 400 avec la première Bolt est arrivée à 383. Après ça, Kia et Hyundai sont arrivés à 400 et là, on s'est dit du côté de Chevrolet, fait qu'on est monté à 417. Donc, on est dans les top 10 avec les Bolt, donc à plus de 400. Mentionnons que la nouveauté qui fait le moins bien pour le moment, c'est la Mazda MX-30 avec un pauvre 161 qui se ramasse en bas de la liste. Mais si vous voulez aller voir tout ça, c'est ecoloauto.com. Donc, vous pouvez consulter évidemment ça et d'autres articles. Et vous pouvez aussi consulter l'annuel de l'automobile qui est sur le marché depuis quelques semaines.
Excellent
et on a évidemment tous les modèles, y compris tous les modèles électriques qui sont dans le livre.
Ouais.
Voilà, c'était le petit aparté. Tu nous parles de Subaru, toi, cette semaine.
Oui, Subaru Outback surtout. J'ai une relation amoureuse avec la marque Subaru, je vais le dire. J'ai personnellement acheté une Outback 2011, ça fait donc 10 ans, on s'entend que ça fait
que tu as toujours en passant.
Que j'ai toujours. Oui. et je vais dire, j'en ai fait vendre un paquet dans mon coin parce que j'ai toujours été un fan de ce format, premièrement. Familiale, 4 roues motrices, puis en plus, 4 roues motrices Subaru, on s'entend. Donc,
oui,
bon format.
Qui est un bon 4 roues motrices.
Peu gourmande, c'était vraiment en 2011, la première génération, cette espèce de combinaison 4 cylindres CVT, là, CVT avec une courroie en acier, donc rien de très fragile, là, quelque chose de très durable. Prix raisonnable et plein de petits détails absolument ingénieux. Et je cite juste un exemple rapidement, les fameux arceaux de toit qui se déploient pour créer un porte-bagages, qui a juste l'outback qu'il y a dans le marché, chez Subaru aussi, puis je comprends pas pourquoi c'est pas plus fréquent ou plus présent dans d'autres modèles. Mais bon, bref, des petits détails comme ça qui rendent ce modèle-là très intéressant. Je vais aussi dire, puisque je viens de faire... une petite promotion, qu'il y a aussi des défauts chez Subaru tout particulièrement. Le plus flagrant, c'est le système multimédia qui est historiquement parmi les pires sur le marché. Ah. Et je vous donne un scoop, ça n'a pas changé avec le modèle.
Non, j'étais pour dire, et ça ne s'est pas amélioré, effectivement.
Tout ça pour dire que j'ai enfin eu la chance de mettre la main au volant de ce qui constitue la grande nouveauté pour l'Outback, en tout cas en 2022, l'édition Wilderness, qui remplace l'édition, je pense, c'était Outdoor, quelque chose comme ça.
Ouais.
La semaine avant, j'ai aussi conduit la Legacy GT, qui est l'espèce de version berline de ce qui est en fin de compte la même voiture. Là. Et la différence entre les deux, écoute, ça tient à une phrase, les forces de l'une sont les faiblesses de l'autre, je pense que je le dirais comme ça.
Ouais.
La Legacy a un style qui passe inaperçu, un format convenu, bon, ça, la voiture peine à se démarquer dans un créneau où les modèles coréens et les autres modèles japonais donnent un peu plus de tape à l'œil et de oomph, disons-le comme ça. Pourtant, la Legacy se conduit très bien, propose un choix de mécanique, bon, très côté sérieux, côté givré, là, qui touche la cible. Ça va être hybride, donc ça va être très compliqué, très coûteux. L'Outback, bon, ben, c'est l'inverse. C'est un VUS pour les gens qui veulent pas de VUS. En gros, là, pour pas le dire comme ça.
C'est ce que j'aime de ce véhicule-là, parce que on a tous les avantages d'un VUS sans en avoir la conduite.
Exactement. Format pratique, rouage intégral, qui est probablement un des meilleurs sur le marché.
Beaucoup d'espace.
Sa motorisation, rien pour épater. Par contre, les gens qui, eux, regarderaient peut-être du côté d'un VUS, un moteur V6, par exemple, pour remorquer une fois dans l'année un bateau, une motoneige, peu importe.
Bon, on peut amener 3500 livres, ce
mais
qui est déjà.
Justement,
C'est correct.
Il faut aller au-delà de la première impression là-dessus pour se dire, bon... Puis c'est un peu dommage parce que les deux 4 cylindres offerts, celui de base à aspiration naturelle puis l'autre à turbo, sont quand même assez efficaces, là, sans être très puissants.
Ouais.
Le premier fait 182 chevaux, c'est évidemment le moins puissant des deux, permet d'atteindre une consommation d'essence, surtout sous les 9 litres aux 100 km, ce qui est quand même assez bon pour ce genre de modèle-là. Mais aussi, ses émissions polluantes sont parmi les plus faibles sur le marché.
On a beaucoup travaillé les catalyseurs du côté de chez Subaru.
Ils ont certainement c'est un détail, mais ils sont très, très performants, disons-le comme ça.
Absolument.
D'ailleurs, vous voulez mettre un cadenas là-dessus parce que je ne voulais pas vous le faire voler.
Effectivement.
C'est un détail, mais quand même.
Il y a eu plusieurs vols, oui.
Deuxième motorisation, bon, c'est un 4 cylindres aussi turbo de 260 chevaux pour ceux qui ont besoin d'un petit peu plus de puissance. Jumelé, dans les deux cas, une boîte CVT qui est probablement la plus fun dans son genre sur le marché. Là, il faut mettre des guillemets là-dessus parce que tu vas pouvoir me confirmer ça, mais c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ce genre de phrase-là.
Mais ils ont un système intéressant où tu as une simulation de changement de rapport. C'est un 8 vitesses qui n'en est pas un parce qu'un CVT, il n'y a pas de vitesse. Sauf que on n'a pas l'impression d'étrangler un cochon d'une clôture de barbelé.
Je l'aurais pas dit comme ça, mais c'est une belle image, effectivement. C'est assez bruyant. Dans le cas de l'Outback 2022, je te dirais que les sonorisations étaient assez bonnes.
Oui.
Et la boîte est assez nerveuse pour justement aller chercher un régime moteur qui fait un bon compromis entre cette espèce d'accélération.
C'est un peu paresseux quand on en départ arrêté. Là. C'est-à-dire quand on part, là, on sent que la boîte met du temps à se mettre en marche. Mais une fois qu'on a atteint une vitesse de croisière, la boîte fonctionne bien. Et honnêtement, je serais capable de vivre avec. Ce qui en dit long sur les CVT, parce que Dieu sait que j'aime pas les boîtes CVT.
Mm-hmm.
Mais effectivement, côté système audio, côté reconnaissance vocale du système, et complication inutile de la tablette, grand format dans le milieu.
C'est un gros écran très vertical. Je vais te dire un truc, parce qu'il y a quand même beaucoup de technologie à bord, surtout de l'édition Wilderness.
Oui.
Il y a entre autres un système qui surveille les yeux du conducteur, puis si tu regardes pas la route, il chicane. Il fait vraiment une alerte, genre bip, 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 hey, regarde. Puis,
le problème, c'est que quand tu veux comprendre cet écran-là, t'as jamais les yeux sur la route.
Et ce que je soupçonne, c'est qu'ils ont créé le système d'alerte, tu sais, d'état d'alerte du conducteur, justement à cause du système de son qui est assez mauvais, qu'on passe notre temps à le regarder.
C'est vrai.
Donc, c'est deux technologies qui s'annulent d'une certaine façon, et c'est vraiment fâchant parce que ça finit que ça coûte plus cher, n'est-ce pas? Et pour une voiture qui, essentiellement, offre... Moi, c'est un peu ça. C'est une bonne voiture, mais en 2021, t'arrives avec une voiture qui coûte un petit peu plus cher puis qui revient à la même chose que d'acheter la Subaru Outback 2011. Fait que je vois pas l'upgrade, disons, pour les gens qui auraient acheté une Outback.
Et c'est probablement le défaut d'à peu près tous les produits Subaru. Même neuf, t'as l'impression de t'asseoir dans une voiture d'occasion. Et ça, il va falloir qu'on travaille là-dessus.
Ouais.
Parce que ça n'enlève rien aux qualités de la voiture. Mais quand on achète neuf, en quelque part, on veut se sentir dans du neuf.
Exact.
On va avoir l'impression que les deniers qu'on a dépensés sont utilisés intelligemment. Et là, des fois, on se dit, ben, coudonc, il me semble que l'auto que j'ai acheté il y a 6 ans, je suis encore assis dedans. Toi qui en as une de 10 ans, t'as pas vu une si grosse différence en prenant le volant?
Ben, c'est pas un changement qui fait comme, waouh, j'ai vraiment changé de voiture.
Ben non,
et Subaru, on se défaut-là d'être extrêmement rationnel. Ils en ont ri d'ailleurs longtemps, en disant, fait des voitures LED, mais au moins, ils ont du bon sens.
Et ils ont une clientèle très fidèle à cause de ça, en quelque part. Fait qu'on veut peut-être pas s'aliéner sa clientèle de base. On veut garder son noyau, mais aussi, en même temps, il faut avoir assez de changements. Bon, le Wilderness va probablement amener ce côté-là givré. Qui a très bien fonctionné avec le Crosstrek, qui va probablement bien fonctionner la Wilderness, puis le prix est pas inabordable. On est à 42 000 pour un modèle Wilderness de base.
Wilderness, exactement. Ouais.
Et on va avoir un Forester Wilderness aussi. Là. C'est officiel, exactement. On l'a annoncé du côté de chez Subaru. Donc,
bref.
Ça fait un modèle intéressant.
Exactement.
J'ai à peu près 3 minutes et demie pour vous parler de la Ferrari Roma.
On change de registre.
On dit que, oui, j'ai eu ça en essai cet été. C'est le modèle d'entrée de gamme de Ferrari, si ça peut vous encourager.
Non, ben oui.
270 000 $ comme prix de base. Bon, là, avec l'équipement et tout ça, on peut dépasser les 300 000 en criant lapin. C'est le coup de crayon de Flavio Manzoni que Ferrari a pris. Une voiture qui se veut sans âge. On regarde, c'est très intemporel comme véhicule. C'est la nouvelle approche de Ferrari. On veut aller chercher une nouvelle clientèle parce que quand on regarde le véhicule, ça n'a pas l'air d'une Ferrari. Au premier coup d'œil, vous dites, je regarde quoi? Une Aston Martin, les rondeurs, je regarde une Jaguar, les phares ronds qu'on est habitué de voir à l'arrière sur toutes les Ferrari depuis la naissance d'Enzo ou à peu près, ça n'existe plus.
Mm-hmm.
La naissance, pas d'Enzo, mais de la compagnie avec Enzo, oui, en 47. on a amené d'autres phares, l'avant est coupé très court, les porte-à-faux sont très courts, donc on amène une autre idée de ce qu'est Ferrari, mais c'est voulu, c'est le genre de clientèle qu'on va aller chercher. Par contre, sur le capot, on est resté fidèle au V8 3,9 litres turbo qui fait 611 chevaux. On a une mécanique qui est très compétente. Ce que moi j'ai trouvé le plus difficile, c'est l'intérieur. Tout fonctionne avec un pavé tactile.
Ah, ça, c'est mauvaise habitude.
Et je n'aime pas les pavés tactiles. Écoute, ça m'a pris 15 minutes à ajuster le rétroviseur du côté passager. Je trouvais pas. En fait, non, c'est pas vrai. J'avais trouvé le bouton. Je trouvais pas comment il fonctionnait. Il faut comme appuyer et diriger le doigt vers la gauche ou la droite pour que le miroir bouge.
C'est pas intuitif.
Je me suis enragé après le char. Et même principe pour l'écran central, pour toutes les fonctions, fonctionne presque par pavé tactile. Il y a même un écran du côté passager pour certaines fonctions que le passager peut utiliser. Donc, on est au 21e siècle. On a fait le saut de façon évidente avec Ferrari de ce côté-là. Bon, est-ce que c'est intéressant? Oui, c'est intéressant à conduire. Est-ce que c'est facile à conduire? Extrêmement facile à conduire. Est-ce qu'on peut aller vite? Vous pouvez faire votre permis avant de vous en rendre compte. Ça reste une vraie Ferrari, mais il faut s'habituer à la technologie. Donc, ça, j'ai trouvé ça un peu différent. Mais si vous voulez quelque chose de neuf, d'intemporel qui va encore être beau dans 20 ans. C'est une belle voiture. Alors, je vous résume ça vite. Nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Ça tient la route. On aura d'autres essais, d'autres invités et on sera avec vous. Merci d'avoir été là. Merci à Danny derrière la console. Salut bien. À la semaine prochaine. Bye-bye.
ça tient la route. Un balado C23 produit par le 98.5. Abonnez-vous à Ça tient la route sur Apple Balado, Spotify ou Google.
C'est 23.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.